Des souffles embaumés flottaient dans la nuit chaude, car tous les jardins des environs étaient à cette saison pleins de fleurs, dont les parfums, endormis pendant le jour, semblaient s'éveiller à l'approche du soir et s'exhalaient, mêlés aux brises légères qui passaient dans l'ombre. L'avenue large était déserte et silencieuse, avec ses deux rangs de becs de gaz allongés jusqu'à l'Arc de Triomphe. Mais là-bas, Paris bruissait dans une buée rouge. C'était une sorte de roulement continu, auquel paraissait répondre parfois au loin, dans la plaine, le sifflet d'un train accourant à toute vapeur, ou bien fuyant à travers la province vers l'océan. L'air du dehors, frappant les deux hommes au visage, les surprit d'abord, ébranla l'équilibre du docteur, et accentua chez Caravan les vertiges qui l'envahissaient depuis le dîner. Il allait, comme dans un songe, l'esprit engourdi, paralysé, sans chagrin vibrant, saisi par une sorte d'engourdissement moral qui l'empêchait de souffrir, éprouvant même un allègement qu'augmentaient les exhalaisons tièdes répandues dans la nuit. Quand ils furent au pont, ils tournèrent à droite, et la rivière leur jeta à la face un souffle frais. Elle coulait, mélancolique et tranquille, devant un rideau de hauts peupliers. Et des étoiles semblaient nager sur l'eau, remuées par le courant. Une brume, fine et blanchâtre, qui flottait sur la berge de l'autre côté, apportait aux poumons une senteur humide. Et Caravan s'arrêta brusquement, frappé par cette odeur de fleuve qui remuait dans son cœur des souvenirs très vieux. Et il revit soudain sa mère, autrefois, dans son enfance à lui, courbée à genoux devant leur porte, là-bas, en Picardie, et lavant au mince cours d'eau qui traversait le jardin, le linge en tas à côté d'elle. Il entendait son battoir dans le silence tranquille de la campagne, sa voix qui criait « Alfred, apporte-moi du savon !» Et il sentait cette même odeur d'eau qui coule, cette même brume envolée des terres ruisselantes, cette buée marécageuse dont la saveur était restée en lui, inoubliable, et qu'il retrouvait justement ce soir-là même où sa mère venait de mourir. Il s'arrêta, roidi dans une reprise de désespoir fougueux. Ce fut comme un éclat de lumière, illuminant d'un seul coup toute l'étendue de son malheur. Et la rencontre de ce souffle errant le jeta dans l'abîme noir des douleurs irrémédiables. Il sentit son cœur déchiré par cette séparation sans fin. Sa vie était coupée au milieu. Et sa jeunesse entière disparaissait engloutie dans cette mort. Tout l'autrefois était fini. Tous les souvenirs d'adolescence s'évanouissaient. Personne ne pourrait plus lui parler des choses anciennes, des gens qu'il avait connus jadis, de son pays, de lui-même, de l'intimité de sa vie passée. C'était une partie de son être qui avait fini d'exister. À l'autre de mourir maintenant. Et le défilé des évocations commença. Il revoyait la maman, plus jeune, vêtue de robes usées sur elle, portée si longtemps qu'elle semblait inséparable de sa personne. Il la retrouvait dans mille circonstances oubliées, avec des physionomies effacées, ses gestes, ses intonations, ses habitudes, ses manies, ses colères, les plis de sa figure, les mouvements de ses doigts maigres, toutes ces attitudes familières qu'elle n'aurait plus. Se cramponnant au docteur, il poussa des gémissements. Ses jambes flasques tremblaient. Toute sa grosse personne était secouée par les sanglots. Et il balbutiait « Ma mère, ma pauvre mère, ma pauvre mère !» Mais son compagnon, toujours ivre, et qui rêvait de finir la soirée en des lieux qu'il fréquentait secrètement, impatienté par cette crise aiguë de chagrin, le fit asseoir sur l'herbe de la rive, et, presque aussitôt, le quitta, sous prétexte de voir un malade. Caravan pleura longtemps. Puis, quand il fut à bout de larmes, quand toute sa souffrance eut, pour ainsi dire, coulé, il éprouva de nouveau un soulagement, un repos, une tranquillité subite. La lune s'était levée, elle baignait l'horizon de sa lumière placide. Les grands peupliers se dressaient avec des reflets d'argent, et le brouillard sur la plaine semblait de la neige flottante. Le fleuve, où ne nageaient plus les étoiles, mais qui paraissait couvert de nacre, coulait toujours, ridé par des frissons brillants. L'air était doux, la brise odorante. Une mollesse passait dans le sommeil de la terre, et Caravan buvait cette douceur de la nuit. Il respirait longuement, croyait sentir pénétrer jusqu'à l'extrémité de ses membres une fraîcheur, un calme, une consolation surhumaine. Il résistait toutefois à ce bien-être envahissant, se répétait « Ma mère, ma pauvre mère !» s'excitant à pleurer par une sorte de conscience d'honnête homme. Mais il ne le pouvait plus, et aucune tristesse même ne l'étreignait aux pensées qui, tout à l'heure encore, l'avaient fait si fort sangloter. Alors, il se leva pour rentrer, revenant à petits pas, enveloppé dans la calme indifférence de la nature sereine et le cœur apaisé malgré lui. Quand il atteignit le pont, il aperçut le fanal du dernier tramway prêt à partir et, par derrière, les fenêtres éclairées du café du Globe. Alors, un besoin lui vint de raconter la catastrophe à quelqu'un, d'exciter la commisération, de se rendre intéressant. Il prit une physionomie lamentable, poussa la porte de l'établissement et s'avança vers le comptoir où le patron trônait toujours. Il comptait sur un effet. Tout le monde allait se lever, venir à lui la main tendue. « Tiens, qu'avez-vous ? » Mais personne ne remarqua la désolation de son visage. Alors, il s'accouda sur le comptoir et, serrant son front dans ses mains, il murmura « Mon Dieu, mon Dieu !» Le patron le considéra « Vous êtes malade, monsieur Caravan ?» Il lui répondit « Non, mon pauvre ami, mais ma mère vient de mourir. » L'autre lâcha un « Ah !» distrait. Et comme un consommateur au fond de l'établissement criait « Un boc, s'il vous plaît !» Il répondit aussitôt d'une voix terrible « Voilà, boum, on y va !» et s'élança pour servir, laissant Caravan stupéfait. Sur la même table qu'avant dîner, absorbés et immobiles, les trois amateurs de dominos jouaient encore. Caravan s'approcha d'eux, en quête de commisération. Comme aucun ne paraissait le voir, il se décida à parler. « Depuis tantôt, leur dit-il, il m'est arrivé un grand malheur. » Ils levèrent un peu la tête, tous les trois en même temps, mais en gardant l'œil fixé sur le jeu qu'ils tenaient en main. « Tiens, quoi donc ?»« Ma mère vient de mourir. » Un d'eux murmura « Ah, diable !» avec cet air faussement navré que prennent les indifférents. Un autre, ne trouvant rien à dire, fit entendre, en hochant le front, une sorte de sifflement triste. Le troisième se remit au jeu, comme s'il eût pensé « Ce n'est que ça !» Caravan attendait un de ces mots qu'on dit « venu du cœur ». Se voyant ainsi reçu, il s'éloigna, indigné de leur placidité devant la douleur d'un ami. Bien que cette douleur, en ce moment même, fût tellement engourdie qu'il ne la sentait plus guère. Et il sortit. Sa femme l'attendait en chemise de nuit, assise sur une chaise basse auprès de la fenêtre ouverte, et pensant toujours à l'héritage. Déshabille-toi, dit-elle. Nous allons causer quand nous serons au lit. Il leva la tête et, montrant le plafond de l'œil,
mais là-haut, il n'y a personne.
Pardon, Rosalie est auprès d'elle. Tu iras la remplacer à 3 heures du matin, quand tu auras fait un somme. Il resta néanmoins en caleçon, afin d'être prêt à tout événement. Noua un foulard autour de son crâne, puis rejoignit sa femme qui venait de se glisser dans les draps. Ils demeurèrent quelque temps assis côte à côte. Elle songeait. Sa coiffure, même à 7 heures, était agrémentée d'un nœud rose et penchée un peu sur une oreille, comme par suite d'une invincible habitude de tous les bonnets qu'elle portait. Soudain, tournant la tête vers lui, « Sais-tu si ta mère a fait un testament ?» dit-elle. Il hésita.
« Je ne crois pas. Non, sans doute, elle n'en a pas fait. »
Madame Caravan regarda son mari dans les yeux, et d'une voix basse et rageuse,
« C'est une indignité, vois-tu, car enfin, voilà 10 ans que nous nous décarcassons à la soigner, que nous la logeons, que nous la nourrissons. Ce n'est pas ta sœur qui en aurait fait autant pour elle, ni moi non plus, si j'avais su comment j'en serais récompensée. Oui, c'est une honte pour sa mémoire. Tu me diras qu'elle payait pension, c'est vrai. Mais les soins de ses enfants, ce n'est pas avec de l'argent qu'on les paie. On les reconnaît par testament, après la mort. Voilà comment se conduisent les gens honorables. Alors, moi, j'en ai été pour ma peine et pour mes tracas. C'est du propre. C'est du propre. »
Caravan, éperdu, répétait.
« ma chérie, je t'en prie, je t'en supplie. »
À la longue, elle se calma. Et, revenant au ton de chaque jour, elle reprit. « Demain matin, il faudra prévenir ta sœur. » Il eut un sursaut.
« C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Dès le jour, j'enverrai une dépêche. »
Mais elle l'arrêta, en femme qui a tout prévu.
« Non, en voilà seulement de 10 à 11, afin que nous ayons le temps de nous retourner avant son arrivée. De Charenton ici, elle en a pour 2 heures ou plus. Nous dirons que tu as perdu la tête. En prévenant dans la matinée, on ne se mettra pas dans la commise. »
Mais Caravan se frappa le front, et, avec l'intonation timide qu'il prenait toujours en parlant de son chef, dont la pensée même le faisait trembler,
« Il faut aussi prévenir au ministère, » dit-il.
Elle répondit, « Pourquoi prévenir ? Dans des occasions comme ça, on est toujours excusable d'avoir oublié.
Ne préviens pas, crois-moi. Ton chef ne pourra rien dire, et tu le mettras dans un rude embarras. » Oh, ça oui, dit-il, et dans une fameuse colère quand il me verra point venir. Oui, tu as raison, c'est une riche idée. Quand je lui annoncerai que ma mère est morte, il sera bien forcé de se taire.
Et l'employé, ravi de sa farce, se frottait les mains en songeant à la tête de son chef, tandis qu'au-dessus de lui, le corps de la vieille gisait, à côté de la bonne endormie. Madame Caravan devenait soucieuse, comme obsédée par une préoccupation difficile à dire. Enfin, elle se décida.
« Ta mère t'avait bien donné sa pendule, n'est-ce pas ? La jeune fille au bilboquet. »
Il chercha dans sa mémoire et répondit.
« Oui, oui, elle m'a dit. Mais il y a longtemps de cela. C'est quand elle est venue ici. Elle m'a dit... « Ce sera pour toi, la pendule, si tu prends bien soin de moi. »
Madame Caravan, tranquillisée, se rasséréna.
« Alors, vois-tu, il faut aller la chercher, parce que si nous laissons venir ta sœur, elle nous empêchera de la prendre. »
Il hésitait.
« Tu crois ? »
Elle se fâcha.
« Certainement que je le crois. Une fois ici, ni vu ni connu, c'est à nous. » C'est comme pour la commode de sa chambre, celle qui a un marbre. Elle me l'a donnée, à moi, un jour qu'elle était de bonne humeur. Nous la descendrons en même temps. »
Caravan semblait incrédule.
« Mais, ma chère, c'est une grande responsabilité. » Elle se tourna vers lui, furieuse. « Ah, vraiment, tu ne changeras donc jamais. Tu laisserais tes enfants mourir de faim, toi, plutôt que de faire un mouvement. Du moment qu'elle me l'a donnée, cette commode, c'est à nous, n'est-ce pas? Et si ta sœur n'est pas contente, elle me le dira, à moi. Je m'en moque bien de ta sœur. Allons, lève-toi, que nous apportions tout de suite ce que ta mère nous a donné. »
Tremblant et vaincu, il sortit du lit. Et comme il passait sa culotte, elle l'en empêcha.
« Ce n'est pas la peine de t'habiller, va, garde ton caleçon, ça suffit, j'irai bien comme ça, moi. »
Et tous deux, en toilette de nuit, partirent, montèrent l'escalier sans bruit, ouvrirent la porte avec précaution, et entrèrent dans la chambre, où les quatre bougies allumées autour de l'assiette au buis béni semblaient seules garder la vieille en son repos rigide. Car Rosalie, étendue dans son fauteuil, les jambes allongées, les mains croisées sur sa jupe, la tête tombée de côté, immobile aussi et la bouche ouverte, dormait en ronflant un peu. Caravan prit la pendule. C'était un de ces objets grotesques, comme en produisit beaucoup l'art impérial. Une jeune fille en bronze doré, la tête ornée de fleurs diverses, tenait à la main un bilboquet dont la boule servait de balancier.
« Donne-moi ça !» lui dit sa femme, « et prends le marbre de la commode !»
Il obéit en soufflant, et il percha le marbre sur son épaule avec un effort considérable. Alors le couple partit. Caravan se baissa sous la porte, se mit à descendre en tremblant l'escalier, tandis que sa femme, marchant à reculons, l'éclairait d'une main, ayant la pendule sous l'autre bras. Lorsqu'ils furent chez eux, elle poussa un grand soupir.
« Le plus gros est fait, » dit-elle. « Allons chercher le reste. »
Mais les tiroirs du meuble étaient tout pleins des hardes de la vieille, et il fallait bien cacher cela quelque part. Madame Caravan eut une idée.
« Va donc prendre le coffre à bois en sapin qui est dans le vestibule. Il ne vaut pas 40 sous. On peut bien le mettre ici. »
Et quand le coffre fut arrivé, on commença le transport. Ils enlevaient, l'un après l'autre, les manchettes, les collerettes, les chemises, les bonnets, toutes les pauvres nippes de la bonne femme étendues là, derrière eux, et les disposaient méthodiquement dans le coffre à bois de façon à tromper Madame Brault, l'autre enfant de la défunte, qui viendrait le lendemain. Quand ce fut fini, on descendit d'abord les tiroirs, puis le corps du meuble en le tenant chacun par un bout. Et tous deux cherchèrent pendant longtemps à quel endroit ils feraient le mieux. On se décida pour la chambre, en face du lit, entre les deux fenêtres. Une fois la commode en place, Madame Caravan l'emplit de son propre linge. La pendule occupa la cheminée de la salle, et le couple considéra l'effet obtenu. Ils en furent aussitôt enchantés. « Ça fait très bien, » dit-elle. Il répondit
« Oui, très bien. »
Alors ils se couchèrent. Elle souffla la bougie et tout le monde bientôt dormit aux deux étages de la maison. Il était déjà grand jour lorsque Caravan rouvrit les yeux. Il avait l'esprit confus à son réveil, et il ne se rappela l'événement qu'au bout de quelques minutes. Ce souvenir lui donna un grand coup dans la poitrine, et il sauta du lit, très ému de nouveau, prêt à pleurer. Il monta bien vite à la chambre au-dessus, où Rosalie dormait encore, dans la même posture que la veille, n'ayant fait qu'un somme de toute la nuit. Il la renvoya à son ouvrage, remplaça les bougies consumées, puis il considéra sa mère, en roulant dans son cerveau ses apparences de pensée profonde, ces banalités religieuses et philosophiques qui hantent les intelligences moyennes en face de la mort. Mais comme sa femme l'appelait, il descendit. Elle avait dressé une liste des choses à faire dans la matinée, et elle lui remit cette nomenclature dont il fut épouvanté. Il lut. 1. Faire la déclaration à la mairie.
2. Demander le médecin des morts. 3. Commander le cercueil. 4. Passer à l'église. 5. Aux pompes funèbres. 6. À l'imprimerie pour les lettres. 7. Chez le notaire. 8. Au télégraphe pour avertir la famille. Plus une multitude de petites commissions. Alors, il prit son chapeau et s'éloigna. Or, la nouvelle s'étant répandue, les voisines commençaient à arriver et demandaient à voir la morte. Chez le coiffeur, au rez-de-chaussée, une scène avait même eu lieu à ce sujet, entre la femme et le mari pendant qu'ils rasaient un client. La femme, tout en tricotant un bas, murmura « Encore une de moins, et une avare, celle-là, comme il n'y en avait pas beaucoup. Je ne l'aimais guère, c'est vrai. Il faudra tout de même que j'aille la voir. » Le mari grogna, tout en savonnant le menton de son patient. « En voilà des fantaisies, il n'y a que les femmes pour ça. Ce n'est pas assez de vous embêter pendant la vie. Elles ne peuvent seulement pas vous laisser tranquille après la mort. » Mais son épouse, sans se déconcerter, reprit. « C'est plus fort que moi, il faut que j'y aille. Ça me tient depuis ce matin. Si je ne la voyais pas, il me semble que j'y penserais toute ma vie. Mais quand je l'aurais bien regardée pour prendre sa figure, je serais satisfaite après. » L'homme au rasoir haussa les épaules et confia au monsieur dont il grattait la joue. « Je vous demande un peu quelles idées ça vous a, ces sacrées femelles. Ce n'est pas moi qui m'amuserais à voir un mort. » Mais sa femme l'avait entendu, et elle répondit sans se troubler. « C'est comme ça, c'est comme ça. » Puis, posant son tricot sur le comptoir, elle monta au premier étage. Deux voisines étaient déjà venues et causaient de l'accident avec Madame Caravan, qui racontait les détails. On se dirigea vers la chambre mortuaire. Les quatre femmes entrèrent à pas de loup, aspergèrent le drap l'une après l'autre avec l'eau salée, s'agenouillèrent, firent le signe de la croix en marmottant une prière, puis, s'étant relevées, les yeux agrandis, la bouche entr'ouverte, considérèrent longuement le cadavre, pendant que la belle-fille de la morte, un mouchoir sur la figure, simulait un hoquet désespéré. Quand elle se retourna pour sortir, elle aperçut, debout près de la porte, Marie-Louise et Philippe Auguste, tous deux en chemise, qui regardaient curieusement. Alors, oubliant son chagrin de commande, elle se précipita sur eux, la main levée, en criant d'une voix rageuse « Voulez-vous bien filer, bougre de polisson ?» Étant remontée 10 minutes plus tard, avec une fournée d'autres voisines, après avoir de nouveau secoué le buis sur sa belle-mère, prié, larmoyé, accompli tous ses devoirs, elle retrouva ses deux enfants revenus ensemble derrière elle. Elle les talocha encore par conscience. Mais la fois suivante, elle n'y prit plus garde. Et à chaque retour de visiteur, les deux mioches suivaient toujours, s'agenouillant aussi dans un coin et répétant invariablement tout ce qu'ils voyaient faire à leur mère. Au commencement de l'après-midi, la foule des curieuses diminua. Bientôt, il ne vint plus personne. Madame Caravan, rentrée chez elle, s'occupait à tout préparer pour la cérémonie funèbre. Et la morte resta solitaire. La fenêtre de la chambre était ouverte. Une chaleur torride entrait avec des bouffées de poussière. Les flammes des quatre bougies s'agitaient auprès du corps immobile. Et sur le drap, sur la face aux yeux fermés, sur les deux mains allongées, des petites mouches grimpaient, allaient, venaient, se promenaient sans cesse, visitaient la vieille, attendant leur heure prochaine. Mais Marie-Louise et Philippe Auguste étaient repartis vagabonder dans l'avenue. Ils furent bientôt entourés de camarades, de petites filles surtout, plus éveillées, flairant plus vite tous les mystères de la vie. Et elles interrogeaient comme les grandes personnes. « Ta grand-maman est morte ?»« Oui, hier au soir. »« Comment c'est un mort ?» Et Marie-Louise expliquait, racontait les bougies, le buis, la figure. Alors, Une grande curiosité s'éveilla chez tous les enfants, et ils demandèrent aussi à monter chez la trépassée. Aussitôt, Marie-Louise organisa un premier voyage. 5 filles et 2 garçons, les plus grands, les plus hardis. Elle les força à retirer leurs souliers pour ne point être découverts. La troupe se faufila dans la maison et monta lestement comme une armée de souris. Une fois dans la chambre, la fillette, imitant sa mère, régla la cérémonie. Elle guida solennellement ses camarades, s'agenouilla, fit le signe de la croix, remua les lèvres, se releva, aspergea le lit, et pendant que les enfants, en un tas serré, s'approchaient, effrayés, curieux et ravis pour contempler le visage et les mains, elle se mit soudain à simuler des sanglots en se cachant les yeux dans son petit mouchoir. Puis, consolée brusquement, en songeant à ceux qui attendaient devant la porte, elle entraîna, en courant, tout son monde pour ramener bientôt un autre groupe, puis un troisième. Car tous les galopins du pays, jusqu'au petit mendiant en loques, accouraient à ce plaisir nouveau. Et elle recommençait chaque fois les simagrées maternelles avec une perfection absolue. À la longue, elle se fatigua. Un autre jeu entraîna les enfants au loin, et la vieille grand-mère demeura seule, oubliée tout à fait par tout le monde. L'ombre emplit la chambre, et sur sa figure sèche et ridée, la flamme remuante des lumières faisait danser des clartés. Vers 8 heures, Caravan monta, ferma la fenêtre et renouvela les bougies. Il entrait maintenant d'une façon tranquille, accoutumé déjà à considérer le cadavre comme s'il était là depuis des mois. Il constata même qu'aucune décomposition n'apparaissait encore, et il en fit la remarque à sa femme au moment où il se mettait à table pour dîner. Elle répondit « Tiens, elle est en bois, elle se conserverait 1 an ». On mangea le potage sans prononcer une parole. Les enfants, laissés libres tout le jour, exténués de fatigue, sommeillaient sur leurs chaises et tout le monde restait silencieux. Soudain, la clarté de la lampe baissa. Madame Caravan, aussitôt, remonta la clé. Mais l'appareil rendit un son creux, un bruit de gorge prolongé, et la lumière s'éteignit. On avait oublié d'acheter de l'huile. Aller chez l'épicier retarderait le dîner. On chercha des bougies. Mais il n'y en avait plus d'autres que celles allumées en haut sur la table de nuit. Madame Caravan, prompte en ses décisions, envoya bien vite Marie-Louise en prendre 2. Et l'on attendit dans l'obscurité. On entendait distinctement les pas de la fillette qui montait l'escalier. Il y eut ensuite un silence de quelques secondes, puis l'enfant redescendit précipitamment. Elle ouvrit la porte, effarée, plus émue encore que la veille en annonçant la catastrophe, et elle murmura, suffoquant, « Oh, papa, grand-maman s'habille !» Caravan se dressa avec un tel sursaut que sa chaise alla rouler contre le mur, et il balbutia, « Tu dis ? Qu'est-ce que tu dis là ?» Mais Marie-Louise, étranglée par l'émotion, répéta, « Grand-maman s'habille, elle va descendre !» Il s'élança dans l'escalier follement, suivi de sa femme abasourdie. Mais devant la porte du second, il s'arrêta, secoué par l'épouvante, n'osant pas entrer. Qu'allait-il voir ? Madame Caravan, plus hardie, tourna la serrure et pénétra dans la chambre. La pièce semblait devenue plus sombre, et, au milieu, une grande forme maigre remuait. Elle était debout, la vieille ! Et en s'éveillant du sommeil léthargique, avant même que la connaissance lui fût en plein revenu, se tournant de côté et se soulevant sur un coude, elle avait soufflé 3 des bougies qui brûlaient près du lit mortuaire. Puis, reprenant des forces, elle s'était levée pour chercher ses hardes. Sa commode partie l'avait troublée d'abord, mais peu à peu, elle avait retrouvé ses affaires, tout au fond du coffre à bois. Et s'était tranquillement habillée. Ayant ensuite vidé l'assiette remplie d'eau, replacé le buis derrière la glace, et remis les chaises à leur place, elle était prête à descendre quand apparurent devant elle son fils et sa belle-fille. Caravan se précipita, lui saisit les mains, l'embrassa, les larmes aux yeux, tandis que sa femme, derrière lui, répétait d'un air hypocrite « Quel bonheur! Oh, quel bonheur !» Mais la vieille, sans s'attendrir, sans même avoir l'air de comprendre, roide comme une statue et l'œil glacé, demanda seulement « Le dîner est-il bientôt prêt ?» Il balbutia, perdant la tête. « Mais oui, maman, nous t'attendions !» Et, avec un empressement inaccoutumé, il prit son bras, pendant que Madame Caravan, la jeune, saisissait la bougie, les éclairait, descendant l'escalier devant eux, à reculons et marche à marche, comme elle avait fait la nuit même, devant son mari qui portait le marbre. En arrivant au premier étage, elle faillit se heurter contre des gens qui montaient. C'était la famille de Charenton, Madame Brault, suivie de son époux. La femme, grande, grosse, avec un ventre d'hydropique qui rejetait le torse en arrière, ouvrait des yeux effarés, prêts à fuir. Le mari, un cordonnier socialiste, petit homme poilu jusqu'au nez, tout pareil à un singe, murmura sans s'émouvoir « Eh bien quoi, elle ressuscite ?» Aussitôt que Madame Caravan les eut reconnus, elle leur fit des signes désespérés, puis tout haut « Tiens, comment, vous voilà, quelle bonne surprise !» Mais Madame Brault, abasourdie, ne comprenait pas. Elle répondit à demi-voix « C'est votre dépêche qui nous a fait venir, nous croyions que c'était fini !» Son mari, derrière elle, la pinçait pour la faire taire. Il ajouta avec un rire malin caché dans sa barbe épaisse « C'est bien aimable à vous de nous avoir invités. Nous sommes venus tout de suite. » Faisant allusion ainsi à l'hostilité qui régnait depuis longtemps entre les deux ménages. Puis, comme la vieille arrivait aux dernières marches, il s'avança vivement et frotta contre ses joues le poil qui lui couvrait la face, en criant dans son oreille à cause de sa surdité « Ça va bien, la mère, toujours solide, hein ?» Madame Brault, dans sa stupeur de voir bien vivante celle qu'elle s'attendait à retrouver morte, n'osait pas même l'embrasser, et son ventre énorme encombrait tout le palier, empêchant les autres d'avancer. La vieille, inquiète et soupçonneuse, mais sans parler jamais, regardait tout ce monde autour d'elle, et son petit œil gris, scrutateur et dur, se fixait tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, plein de pensées visibles qui gênaient ses enfants. Caravan dit, pour expliquer, « Elle a été un peu souffrante, mais elle va bien maintenant, tout à fait bien, n'est-ce pas, mère ?» Alors, la bonne femme, se remettant en marche, répondit de sa voix cassée comme lointaine, « C'est une syncope, je vous entendais tout le temps. » Un silence embarrassé suivit. On pénétra dans la salle. Puis on s'assit devant un dîner improvisé en quelques minutes. Seul M. Brault avait gardé son aplomb. Sa figure de gorille méchant grimaçait, et il lâchait des mots à double sens qui gênaient visiblement tout le monde. Mais à chaque instant, le timbre du vestibule sonnait, et Rosalie, éperdue, venait chercher Caravan, qui s'élançait en jetant sa serviette. Son beau-frère lui demanda même si c'était son jour de réception. Et il balbutia « Non, des commissions, rien du tout. » Puis, comme on apportait un paquet, il l'ouvrit étourdiment, et des lettres de faire-part, encadrées de noir, apparurent. Alors, rougissant jusqu'aux yeux, il referma l'enveloppe et l'engloutit dans son gilet. Sa mère ne l'avait pas vue. Elle regardait obstinément sa pendule, dont le bilboquet doré se balançait sur la cheminée, et l'embarras grandissait au milieu d'un silence glacial. Alors la vieille, tournant vers sa fille sa face ridée de sorcière, eut dans les yeux un frisson de malice et prononça
« Lundi, tu m'amèneras ta petite, je veux la voir. »
Madame Brault, la figure illuminée, cria « Oui, maman !» tandis que Madame Caravan, la jeune, devenue pâle, défaillait d'angoisse. Cependant, les deux hommes, peu à peu, se mirent à causer, et ils entamèrent, à propos de rien, une discussion politique. Brault, soutenant les doctrines révolutionnaires et communistes, se démenait, les yeux allumés dans son visage poilu, criant
« La propriété, monsieur, c'est un vol aux travailleurs. La terre appartient à tout le monde. L'héritage est une infamie et une honte. »
Mais il s'arrêta brusquement, confus comme un homme qui vient de dire une sottise. Puis, d'un ton plus doux, il ajouta
« Mais ce n'est pas le moment de discuter ces choses-là. »
La porte s'ouvrit. Le docteur Chenet parut. Il eut une seconde d'effarement. Puis il reprit contenance et s'approchant de la vieille femme.
« Ah ah, la maman, ça va bien aujourd'hui ? Oh, je m'en doutais, voyez-vous. Et je me disais à moi-même tout à l'heure en montant l'escalier, « Je parie qu'elle sera debout, l'ancienne !»
Et lui tapant doucement dans le dos,
« Elle est solide comme le pont neuf. Elle nous enterrera tous, vous verrez. »
Il s'assit, acceptant le café qu'on lui offrait, et se mêla bientôt à la conversation des deux hommes, approuvant Brault, car il avait été lui-même compromis dans la commune. Or, la vieille, se sentant fatiguée, voulut partir. Caravan se précipita. Alors, elle le fixa dans les yeux et lui dit « Toi, tu vas me remonter tout de suite ma commode et ma pendule. » Puis, comme il bégayait « Oui, maman !» elle prit le bras de sa fille et disparut avec elle. Les deux Caravans demeurèrent effarés, muets, effondrés, dans un affreux désastre, tandis que Brault se frottait les mains en sirotant son café. Soudain, Madame Caravan, affolée de colère, s'élança sur lui, hurlant « Vous êtes un voleur, un gredin, une canaille! Je vous crache à la figure! Je vous... » Elle ne trouvait rien, suffoquant, mais lui riait, buvant toujours. Puis, comme sa femme revenait justement, elle s'élança vers sa belle-sœur, et toutes deux, l'une énorme avec son ventre menaçant, l'autre épileptique et maigre, la voix changée, la main tremblante, s'envoyèrent à pleine gueule des hotées d'injures. Chenet et Brault s'interposèrent, et ce dernier, poussant sa moitié par les épaules, la jeta dehors en criant « Va donc, bourrique, tu brais trop !» Et on les entendit dans la rue, qui se chamaillaient en s'éloignant. Monsieur Chenet prit congé. Les Caravans restèrent face à face. Alors, l'homme tomba sur une chaise, avec une sueur froide aux tempes, et murmura « Qu'est-ce que je vais dire à mon chef ?» Thank you.